C'est un podcast Vivre FM.
Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
Ils sont 100 millions en Europe, 11 millions en France à prendre soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap et ou le grand âge. Ce sont des proches aidants ou aidants familiaux, comme ils sont également nommés. Alors quel est leur rôle, souvent exténuant? Comment leur venir en aide? À eux, les aidants qui en ont bien besoin. Claudie Culac, elle-même aidante et fondatrice de la compagnie des aidants et de la caravane des aidants, publie un livre qui explique, propose des témoignages, des pistes pour mieux s'en sortir dans ce long parcours cours de l'aidance. On la retrouve juste après le flash.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
13h01, bientôt 13h02, c'est le flash d'Emmanuel Carré.
Bonjour, le gouvernement s'y engage. Tous les enseignants recevront d'ici la fin du mois des masques chirurgicaux. L'annonce a été faite sur BFM TV par Jean Castex. Les syndicats réclamaient de leur côté des FFP2, des modèles considérés comme plus protecteurs, mais réservés pour le moment au personnel soignant et aux patients atteints de formes graves. Le Premier ministre attend d'ailleurs l'avis du Haut Conseil de la Santé publique qui doit se prononcer demain sur leur généralisation. Jean Castex qui a également réaffirmé sa volonté de mettre en place le pass vaccinal dès le 15 janvier, un dispositif adopté en première lecture ce matin par l'Assemblée nationale après 3 jours de débats houleux dans l'hémicycle. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine. Dans l'actualité également, la nouvelle carte d'identité dans le collimateur de l'Académie française. L'institution dénonce en effet l'emploi de plusieurs mots bilingues sur le document entré en vigueur l'été dernier. Exemple avec le terme « surname » écrit à côté de « nom » des inscriptions en langue anglaise, contraire à la Constitution pour l'Académie française qui se dit prête à saisir le Conseil d'État. Une enquête ouverte par le parquet contre Pierre Ménès, l'ancien animateur de Canal+, est accusé par 7 personnes d'harcèlement sexuel quand il travaillait sur la chaîne cryptée. Des faits dénoncés par la journaliste Marie Portolano dans un documentaire diffusé en mars dernier sur Canal+. Aux États-Unis, les images avaient choqué le monde entier. C'était il y a un an, jour pour jour, l'assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump. Ils avaient tenté d'empêcher la validation de l'élection de Joe Biden. L'actuel pensionnaire de la Maison-Blanche doit prononcer d'ailleurs un discours aujourd'hui pour évoquer cette page sombre de l'histoire américaine. Et il compte bien épingler son prédécesseur responsable à ses yeux de ce chaos, selon des propos rapportés par sa porte-parole. Et puis le foot après, Angers-Saint-Etienne, un nouveau match de la 20e journée de Ligue 1 reporté pour cause de Covid. Il s'agit de Lille-Lorient. 12 cas positifs ont été enregistrés côté Lorientais, 8 chez les Lillois. En revanche, la rencontre entre l'OM et Bordeaux est maintenue pour le moment malgré les demandes de report des Girondins. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à tous.
Merci Emmanuel.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et nous retrouvons notre invitée Claudie Culac. Claudie qui publie Les aidants, ses proches indispensables du quotidien aux éditions Nouvelle Cité Vie des Hommes. Alors, c'est une espèce de manuel pour les aidants avec des témoignages, des conseils. Il y a aussi votre histoire à vous. Vous débutez par votre histoire à vous. On va en parler, Claudie Culac. Vous êtes fondatrice de la Compagnie des aidants, une grosse association. Vous êtes aussi sur le collectif Je t'aide qui regroupe des associations d'aidants. Et puis la caravane des aidants, on vous a invité il n'y a pas longtemps justement pour cette caravane. D'ailleurs, on en est où de cette caravane ?
On en est que en 2021, nous avons organisé 21 étapes sur toute la France.
Oui.
On est parti 2 mois, tout septembre, tout octobre. C'était encore un franc succès. On a rencontré beaucoup d'aidants en difficulté qui ont osé venir nous voir parce que aussi c'est un événement qui est à l'extérieur, donc ils n'avaient pas peur d'être en intérieur avec cette crise Covid actuelle.
Oui.
Et toujours des assistantes sociales très motivées à nos côtés et puis beaucoup de structures locales qui nous rejoignent maintenant et qui participent à cet événement pour donner de la visibilité à ce qui se passe sur les territoires.
Oui, alors ça c'est un succès, on va en parler. Alors tout de suite, on va partir de votre parcours. Vous avez été aidante vous-même dans votre vie personnelle. Et alors la première fois pour votre mère, vous ne saviez pas que vous étiez aidante?
Ah non, mais pas du tout même. Et quand je me suis occupée aussi de ma tante et de mon père et que ça devenait vraiment très compliqué, Monique, qui s'occupait en tant que service à la personne de mes parents, je la vois un jour, je lui dis « Monique, j'en peux plus, je suis crevée, ça va pas du tout ». Elle me dit « Bienvenue chez les aidants ». C'était en 2011. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et parce que moi, je faisais un peu mon devoir oui. de fille aînée, aimante de ses parents. Et donc je me suis retrouvée dans un focus group. J'ai écouté des femmes parler. Je me suis dit, mais elles racontent ma vie. Et c'est là que tout a commencé, en fait.
Oui.
Donc, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. 10 ans au service des aidants, à faire avancer la cause, à proposer des solutions. Et puis, quand est arrivé le premier confinement, c'était devenu pour moi une nécessité que de témoigner, parce que, comme vous l'avez dit justement, avec les tournées de caravane, ça faisait un moment qu'on tournait, que j'écoutais les aidants parler, que j'avais besoin de montrer que je n'étais pas seule et les situations que vivaient nos concitoyens en étant aidants.
Oui, oui. Et alors revenons au début du livre, vous parlez de votre expérience avec des dentes, avec votre mère, votre tante et puis votre père. Alors on sent que c'était très dur physiquement, psychologiquement, c'est beaucoup d'investissement, c'est énorme. Et c'est ce que vivent beaucoup d'autres personnes également. Donc vous découvrez le sens de ce mot aidant, ce terme aidant par hasard, par quelqu'un qui vous en parle. Et ça a changé quoi pour vous de savoir que vous étiez aidante?
Ben, vous savez, quand vous accompagnez un proche fragilisé, vous le faites, comme je l'ai dit, par amour, par devoir, par nécessité, parce que vous n'avez pas d'autre choix, hein, et vous ne vous posez pas de questions. Pouvoir dire que je suis aidant, ça veut dire que enfin je vais me reconnaître comme un accompagnant qui va prendre du temps, peut-être dépenser de l'argent aussi, parce que ça a un coût financier, pour s'occuper de l'autre. Donc peut-être qu'en étant aidant, je peux avoir de l'aide à mon tour et je peux être reconnue pour ce que je fais pour les autres. Et puis d'ailleurs, dans cette crise Covid, on voit à quel point l'aidant a été indispensable pour que notre système de santé ne s'écroule pas. Donc, être aidant, ça veut dire on peut aussi peut-être s'occuper de moi et m'aider dans cet accompagnement. Et je vais peut-être avoir des droits. Vous voyez, avec le plan Agir pour les aidants, on a obtenu le congé de proches aidants indemnisés. On a obtenu que le baluchonnage soit expérimenté et que cette expérimentation se prolonge dans le temps. Je rappelle, le baluchonnage, c'est des professionnels qui viennent à domicile pour suppléer l'aidant et permettre à la personne fragilisée de rester dans son cadre de vie pour que l'aidant, par exemple, s'occupe de sa santé.
Oui, oui. Et vous pensez que depuis l'apparition de ce terme aidant, eh bien, les choses s'améliorent, on met plus de choses en œuvre pour aider les aidants, justement?
Ah oui, mais c'est incroyable ce qui se passe. Moi, j'ai vu en 10 ans que cette cause a trouvé une écoute attentive. Par exemple, il faut rendre à César ce qui est à César, mais le gouvernement actuel a fait beaucoup pour les aidants. Les collectivités locales avec lesquelles je collabore ou pas, en tous les cas, beaucoup d'entre elles ont mis en place des solutions. Les prestataires de services à la personne, sans souci. La silver economy aussi. Les entreprises qui proposent des solutions pour leurs salariés. Donc tout le monde, en fait, aujourd'hui, s'empare de ce sujet-là pour apporter des réponses très concrètes et pratiques. Et on est très contents.
Mais oui, j'imagine. Oui. Alors que vous avez commencé, de par votre expérience personnelle, à vous dire, il faut que je fasse quelque chose pour les aidants. Vous vous lancez dans la création d'une plateforme. C'était en 2011, hein, je crois.
C'est ça, exactement.
Voilà. Et à l'époque, on en était où au niveau de l'aide aux aidants, au niveau de la compréhension du problème et d'aide?
Je vais vous faire rire. Quand j'ai commencé, on me demandait... Comment ça s'écrit aidant? Alors, bon, en 2011, ma chance, c'est que le département des Hauts-de-Seine lance un appel à projet économie sociale et solidaire. Je vais concourir et puis du coup, je vais être lauréate et ça va me mettre le pied à l'étrier parce qu'en 2012, je vais trouver des financements avec nos partenaires qui sont bien connus comme AG2R, Fondation Massif, etc. Donc, je vais pouvoir lancer la première plateforme fin 2012, qui est une plateforme qui permet aux aidants de se mettre en réseau, c'est la pair aidance, pour pouvoir échanger sur ce qu'ils ont mis en place, sur les solutions qu'ils connaissent, sur le territoire où vit leur proche, parce que ça fonctionne par code postal, c'est facile. Hein. Et du coup, on est en relation d'aidant à aidant. Parce que, si vous voulez, les aidants sont des gens qui ont du vécu et qui ne vont pas juger l'attitude d'un autre aidant. Donc, on parle entre pairs, on a confiance et on sait que l'autre ne va pas nous juger sur les décisions qu'on est amené à prendre parce qu'on n'a pas, parfois pas toujours le choix.
Oui, oui, oui. Et donc, cette plateforme, elle est mise en place avec des conseils, des groupes de parole, c'est que ça ?
Alors, non, nous, vraiment, l'idée, c'était j'ai mon parent qui ne va pas bien à l'autre bout de la France. Je suis actif, je suis mère de famille, il faut que j'agisse très vite. Je tape le code postal et je suis mise en relation avec des aidants sur le territoire de mon choix. Et là, je vais pouvoir poser des questions à cet aidant sur ce que lui-même a mis en place pour aider son proche. Et je vais aller vite comme ça, parce que vous savez qu'en moyenne, c'est 226 km qui séparent l'aidant de son proche. Prenez ma sœur, elle est à Toulouse, papa était Alzheimer en Île-de-France. On a largement dépassé les 226 km. Hein. Donc du coup, apporter une réponse très rapide. Puis bien évidemment, on a une foire aux questions. Et quelques années après, on a lancé une plateforme de formation en ligne parce qu'on s'est rendu compte que les aidants étaient amenés à faire des gestes techniques sans savoir le faire. Et on va revenir encore au confinement de 2020, quand les hôpitaux ont appelé les aidants en disant « il faut venir chercher votre fils, votre père, votre mari, etc. Oui. » On a vu une utilisation de notre plateforme de formation qui a été exponentielle. On a eu 180 personnes qui se sont inscrites pour suivre la formation parce qu'ils avaient des gestes à faire qu'ils ne savaient pas faire. Donc sur notre plateforme, on a des petites vidéos qui montrent comment on fait un transfert d'un lit à un fauteuil, comment on utilise un lève-personne. Vous voyez, tout un tas de choses qu'on est amené à faire quand on s'occupe d'un proche fragilisé. Moi-même, ma tante était handicapée. Elle avait eu la polio quand elle était jeune. Oui. Une femme qui avait toujours été très indépendante. Et puis en vieillissant, elle était en fauteuil. Un jour, mon mari a dû la porter de son fauteuil pour la mettre dans son lit. Il ne savait pas faire. On n'est pas formé. Donc, notre plateforme de formation, elle permet justement d'apporter une formation de base aux aidants pour savoir comment faire.
Oui, oui. On va continuer à en parler, cette plateforme de formation, de la compagnie des aidants et puis de l'évolution de l'aidance en France, juste après une pause musicale.
Vivre FM. La radio de toutes les différences.
Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter.
Trop tard pour mettre les voiles, je vais devoir t'embrasser.
Je sais, je suis ton idéal, mais j'aimerais te passer de toi.
Oh, 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 je sais que tu m'as passé la dent de toi. Oh, oh, oh,
je fais semblant d'être encore un peu.
Alios, me passer de toi sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Ils sont 11 millions en France, ces aidants, proches aidants, aidants familiaux, qui généreusement aident l'un de leurs proches malades en situation de handicap. On en parle jusqu'à 13h45. Ces aidants, eh bien, Claudie Culac leur consacre un livre, ses proches indispensables du quotidien, les aidants, aux éditions Nouvelle Cité. Claudie Culac, qui a fondé l'association La Compagnie des aidants, dont nous parlons depuis tout à l'heure. Une compagnie, c'est une plateforme à la base, avec des tutos pour par exemple aider son proche à se lever, à le sortir de son fauteuil, et puis des conseils, et puis des pères aidants, d'autres aidants qui vont vous conseiller, qui vont discuter avec vous. Qu'est-ce qu'on trouve comme conseil justement indispensable au niveau des tutos, par exemple?
Au niveau des tutos, donc on a surtout tout ce qui relève des gestes techniques.
Oui.
D'accord. Là, on vient d'en sortir un supplémentaire qui va être bientôt mis en ligne sur la santé des aidants.
Oui.
Ça, c'est très important. Prendre soin de sa santé psychologique et physique.
Mais on n'a pas le temps?
Ben non, mais il le faut, c'est nécessaire. Vous savez, quand vous prenez l'avion, on vous dit « mettez d'abord le masque sur votre visage avant de le mettre sur le visage de votre enfant ». Quand on est aidant, c'est pareil. Si on ne prend pas soin de soi, on ne pourra pas prendre soin de son proche. C'est des petites choses comme ça qui sont importantes à comprendre. Parce que c'est vrai ce que vous dites, on a la tête sous l'eau, mais il y a un moment, il faut respirer. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Aller chercher au plus près de chez soi des solutions qui vont nous aider à trouver cette respiration pour pouvoir continuer. Alors, on est en train de préparer 3 nouveaux tutos aussi sur... Alors maintenant, on les appelle des modules de formation.
Ah.
Attention, parce qu'en 2021, on a fait faire une évaluation de notre plateforme.
Oui.
Et donc, on est en train de... on va proposer des choses vraiment très innovantes et très sympas.
Tout est gratuit. Hein,
oui, oui, bien sûr, tout est gratuit. Nous avons, heureusement pour nous, des partenaires financiers qui nous font confiance depuis des années et qui nous accompagnent. Donc, on va avoir 3 nouveaux tutos sur AVC, schizophrénie, dépression nerveuse. Et vers la fin de l'année, nous aurons 5 nouveaux tutos dans le champ du handicap. Bien sûr, ces tutos se construisent avec des associations, avec les parties prenantes. On ne fait jamais tout seul, parce que ça, ce n'est vraiment pas notre devise. On va chercher les compétences là où elles se trouvent. On va aussi donner de la visibilité à des outils qui existent déjà et qui sont peu connus. Donc du coup, vraiment une plateforme ressource pour savoir comment faire en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve et qui peuvent être pas banales.
Effectivement, alors il y a des témoignages dans votre livre, quelques témoignages qui sont très très poignants sur la vous en parlez, vous en nommez 2 sur la caravane, une caravane des aidants où vous partez en région, en différentes villes pour informer les aidants, pour les aider, leur donner des conseils. Vous citez une femme à Lyon à qui vous apprenez qu'elle est aidante et ça lui fait un bien fou.
Oh oui, alors bon. Avant ça, elle va tomber dans mes bras en pleurs. Donc, je vais lui faire un petit câlin pour la réconforter. Et puis, en fait, on va découvrir qu'elle est aidante de 5 personnes de sa famille. Et là, tout à coup, pour elle, c'est une révélation. Donc, elle va se poser. Elle va se poser longtemps avec nous. Elle va même rester. Elle va demander à rencontrer nos assistantes sociales parce que il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et qui fait qu'elle est reconnue dans ce qu'elle fait, en fait.
Oui, c'est très important. Elle va pouvoir mieux gérer la suite de son aidance. Et puis, il y a cette histoire tragique de ce monsieur de 75 ans qui vous dit quelque chose qui j'ai failli tuer ma femme.
Oui. Alors ça, alors faut savoir que sur... Comment ça s'est passé, ça? Je remets dans le contexte. Quand on se déplace avec notre caravane, souvent, même pratiquement toujours, on organise des temps d'échange sur les territoires. Alors, on invite les pros de santé, on invite les associations, les politiques, etc. Donc, je venais de prendre la parole. Et puis, ce monsieur vient vers moi, il me dit « Je peux vous parler ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Donc, on se met un petit peu à l'écart. Et il me dit « Voilà, j'ai voulu tuer ma femme. » Alors, vous prenez ça déjà en plein dans le bide. Hein,
oui.
Parce que bon, moi, j'ai encore des émotions, hein, malgré mon grand âge.
Pas vieille.
Et, Et il me raconte son histoire. En fait, sa femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle criait toute la journée. Il avait voulu qu'elle reste à domicile. Ils étaient mariés depuis très longtemps. Il aimait sa femme. Et puis, ça devenait impossible. Et un jour, il avait sorti la carabine. Et son idée, c'était de la tuer et ensuite de se suicider. Mais la chance, c'est que la veille, une infirmière était passée et avait trouvé qu'ils n'étaient pas bien l'un et l'autre. Donc, cette femme incroyable est repassée ce jour-là en se disant « je vais quand même faire un petit détour sur ma tournée ». Là, elle a compris, elle a appelé la fille de ce couple qui est venue très rapidement. Cette épouse a été placée en maison de retraite. Et alors lui, il était marrant parce qu'il me dit « mais moi, je ne savais pas faire la cuisine, c'était ma femme qui cuisinait ». Donc, il s'est organisé. Voilà, chaque jour, il va chercher son repas chez le traiteur. Et chaque jour, il va à la maison de retraite voir sa femme, qui ne le reconnaît plus. Mais pour lui, c'est essentiel. Et moi, j'en avais les larmes aux yeux parce que je suis mariée depuis plus de 34 ans. Donc, oui. Je sais ce que c'est que l'amour, que le couple, que cette affreuse maladie qui peut... qui peut nous rendre dingues si on n'est pas aidé.
Et alors, le message dans le livre, pour cette anecdote, ce fait tragique, c'est que finalement, on veut garder l'être avec soi et on n'en peut plus. Donc, l'être aimé, eh bien, il faut qu'il aille sur une maison spécialisée. Et là, on va pouvoir respirer et là, on va pouvoir reprendre des relations avec lui.
Oui, vous savez, en fait... On est dans une société qui est très culpabilisante. Vous vous mariez pour le meilleur, pour le pire. Et là, il vivait le pire. Mais comme on lui avait glissé dans l'oreille, il pensait que c'était son destin.
Oui.
Mais il y a un moment quand c'est plus possible. Quand on met sa vie en péril et qu'on peut du coup mettre en péril la vie de l'autre, il faut prendre des décisions. Souvent, je rassure les familles, il y a des établissements qui accueillent des personnes âgées qui sont super. Il faut juste visiter avant. Il ne faut pas aller n'importe où, n'importe comment.
Il y a une image terrible.
Mais oui,
il y a une image terrible.
Une image terrible. Et puis aussi, il ne faut pas oublier le coût des maisons de retraite qui freinent parfois certaines familles qui n'ont pas les moyens de payer. Donc, vous avez des familles qui sont endettées sur la génération des petits-enfants.
Ah oui.
Ben oui, parce que quand on appelle les familles et qui deviennent obligées alimentaires, parfois, les enfants ne peuvent pas financer le coût de la maison de retraite. Alors, on appelle les petits-enfants, qui sont souvent jeunes, qui sont au début de leur vie, qui doivent construire aussi leur vie, voyager, vivre, tout simplement.
Qui sont obligés de payer aussi.
Qui sont obligés.
Et ça doit créer du ressentiment, tout ça.
Eh bien, vous savez, ceux que je connais assument pleinement, disent que c'est comme ça, c'est leur devoir, il n'y a pas de sujet. Mais moi... je n'aimerais pas que mes enfants payent pour moi parce qu'ils ont à utiliser leurs moyens pour faire autre chose que payer la maison de retraite. Mais ça aussi, ça révèle quoi ? Ça révèle qu'il n'y a pas de pédagogie faite sur la perte d'autonomie dans notre pays. Au contraire, on nous dit toujours d'être vaillant, fort, puissant, de travailler, de trouver notre place dans cette société. Mais on ne nous parle jamais que d'ici quelques années, j'espère bien sûr le plus tard possible, on peut devenir dépendant et que la dépendance a un coût. Et si on ne prévoit pas qu'un jour on sera dépendant, eh bien on se retrouve dans des situations où c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui sont obligés de payer pour nous. Oui. Mais ça, on ne nous l'a pas dit. Or, moi, je rêve, franchement, si vous me permettez, je rêve d'un grand plan cinquième risque où chaque salarié paiera sur son salaire une toute petite somme, mais qui permettra de financer sa dépendance demain. Comment on fait sinon ?
Ce serait pas mal, oui.
Ce serait pas mal, non ? Enfin, en tous les cas, il faut que vos auditeurs se rendent compte qu'on ne restera pas toute notre vie des surhommes ou des surfemmes, hein, enfin en tous les cas, oui. indépendants.
Oui.
Qu'un jour,
on vit de plus en plus vieux,
oui,
et que, donc forcément...
Exactement, et que la dépendance a un coût et qu'il faut...
Et le nombre de personnes dépendantes augmente et continuera d'augmenter, c'est logique.
Et c'est logique. Ben oui, 2030, 30% de la population aura plus de 60 ans, donc vous imaginez.
Oui. Et alors, ce qui peut être intéressant pour les pouvoirs publics, pour s'intéresser au problème, c'est que la personne aidante qui aide son mari, sa femme ou son père, sa mère, cette personne, eh bien, elle fait faire des économies à l'État, puisque cette personne n'est pas placée dans un établissement.
Merci Marie, vous avez raison. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on demande une grande enquête sur ce sujet-là. Et on serait bien étonnés de voir... ce que l'État n'a pas besoin de financer grâce à la solidarité familiale. Vous avez des familles où madame ou monsieur s'arrête de travailler pour s'occuper de leur enfant en situation de handicap ou malade. Vous avez des filles qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs parents âgés. D'accord ? Sans revenu, hein ? Sans cotiser à la retraite. Donc,
oui.
On repousse le problème, encore une fois,
oui.
dans les 10 ou 30 ou 20 ans plus tard. Ou comment feront-ils, eux, pour financer leur propre dépendance ? Donc, parce qu'à un moment, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce qu'on a longtemps compté sur les femmes. OK ? Or, les femmes, aujourd'hui, travaillent, sont indépendantes. Et il faut que ça reste comme cela, d'ailleurs. Hein, ça, c'est vraiment un message important. Donc, du coup, comment on fera demain pour s'occuper de nos proches qui seront en perte d'autonomie ?
Oui.
Parce que, bon, on le sait très bien, hein, que c'est une question de genre.
Oui,
hein, c'est les femmes
qui
sont des aidantes à 64% quand ça devient compliqué.
Oui.
Même si, respect pour ces messieurs qui sont aussi souvent très investis. Hein. Donc, je ne veux pas faire une guerre des genres sur les danses, mais il y a une réalité de ce côté-là aussi.
Mmh. Oui. Et alors, est-ce que les pouvoirs publics, aujourd'hui, vous écoutent et vous comprennent ?
Alors, nous écoutent très certainement. Nous comprennent aussi. Mais après cela, il va falloir passer à la vitesse supérieure. C'est sûr qu'on est content parce que le plan Agir pour les aidants a déjà mis des choses en place, mais il faut aller plus loin. Par exemple, dans le plan Agir pour les aidants, il y a un sujet qui est à la main aujourd'hui des branches professionnelles. Comment, dans chaque branche, on met en place des solutions pour accompagner cet actif aidant ? Je donne un exemple très clair. Vous travaillez dans une grande entreprise, vous recevez un coup de fil, il y a un de vos proches a eu un accident, vous devez vous arrêter de travailler, vous n'avez pas le choix, vous devez vous occuper de lui. Qu'est-ce que mon entreprise va me proposer à ce moment-là ? Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, mais qui sont pour l'instant peu connus des entreprises, peu utilisés, même si je dirais presque... rarement utilisé, parce que en fait, il y a un problème avec cet actif aidant qui a du mal à se faire identifier par son RH. Pourquoi ? Ben, ça paraît logique. Alors qu'on est dans une société de la performance, vous n'allez pas aller voir votre RH en disant ben voilà, la fragilité, pas la mienne forcément, mais d'un de mes proches me tombe dessus. Il faut absolument que j'aménage mon temps de travail. Vous avez peur, vous vous dites, mais si ça se trouve, je vais être dans la prochaine charrette,
oui.
Est-ce qu'on va me comprendre ? Et puis, vous ne voulez pas mélanger votre vie privée, votre vie pro. Donc, on voit à quel point ce sujet est complexe dans les entreprises et qu'il faut absolument des tiers de confiance pour accompagner la transformation.
Mmh.
Parce que le salarié, il n'est pas toujours rassuré par sa hiérarchie.
Oui, oui. Alors, vous parlez des congés, vous en citez trois, je crois, dans votre livre, page 82. Il y a le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant et le congé de présence parentale. Alors, vous pouvez nous expliquer quel est celui qu'il faut prendre lorsqu'on est actif et qu'on a besoin de s'occuper de sa mère ou de son père pendant un mois, pendant deux mois.
Alors, le congé de proche aidant est celui qui convient à une autre catégorie. Okay. On peut le prendre durant trois mois. Il est renouvelable trois fois pendant sa carrière professionnelle.
Donc c'est peu.
On est d'accord, c'est trop peu. Parce que sinon, bah, vous dites, je me suis occupée de tonton Marcel, tata Janine, je ne peux pas m'occuper d'elle parce que je n'ai plus de temps. Okay. Alors, il est fractionnable, hein, vous pouvez prendre un jour par-ci, un jour par-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui se mettent en congé maladie. Alors là aussi, il est indemnisé, ce congé. Cette indemnité a été réévaluée là dernièrement, donc oui. On est très contents. Mais il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est aux branches professionnelles à se saisir de cette opportunité pour aller plus loin. Parce que l'État peut faire un bout, mais ne peut pas tout aujourd'hui. Donc il faut aussi des accords de branche. Il faut voir aussi avec les groupes de protection sociale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui ne sont pas consommées dans les entreprises, ce qui est quand même terrible. Donc... je peux vous donner une information aussi où je suis hyper contente parce que j'ai été nommée au Conseil économique, social et environnemental en 2021. J'ai rejoint le groupe Famille, la commission Travail. Et c'est moi qui ai choisi la commission Travail. Pourquoi ? Parce que je veux faire bouger les choses dans cet univers-là, dans l'univers du travail. Parce que souvent, on a vu les dents comme une dame âgée, s'occupant d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, sans voir qu'en fait, derrière, c'était souvent ses enfants qui organisaient tout ce qu'il y avait à organiser, maintien à domicile, choix d'une maison de retraite. Mais c'est pareil, quand vous avez une famille où il y a un enfant qui a un accident grave, où cet enfant se retrouve en situation de handicap... et j'ai perdu le fil, voilà. Bon, vous voyez, c'est toutes ces situations qui font qu'il y a un moment, vous devez concilier votre vie pro et votre vie perso, oui. Et que c'est pas facile.
Oui, oui. Claudie Culac, quels sont les... Alors, il y a beaucoup de conseils dans votre livre. Vous parlez de beaucoup de dispositifs. Il y en a beaucoup de dispositifs. C'est difficile de les connaître tous. Enfin, il faut vraiment se renseigner pour être sûr de ne pas manquer quelque chose qui peut vous venir en aide. Un dispositif départemental, régional, national.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En 10 ans de temps, on a vu quand même donc l'État... les collectivités locales, les groupes de protection sociale, les assureurs, les mutuelles, mettre en place des dispositifs pour accompagner ces aidants dans l'accompagnement qu'ils ont en direction de leurs proches. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, c'est d'aller au centre communal d'action sociale de sa ville ou de la ville de son proche. Oui. Pour avoir les informations sur ce qui existe sur le territoire.
Oui.
Vous allez être surpris. Vous allez voir qu'il y a des associations, que la ville a mis des choses en place, que le département également, et la région aussi. Ensuite, si vous avez un parent âgé, c'est d'appeler sa caisse de retraite. Et si vous avez un proche bah, âgé ou pas, s'il a une mutuelle. Déjà, si vous passez ces petits coups de fil-là, vous allez découvrir qu'il existe plein de choses pour vous aider et pour trouver des solutions. Certainement que ce n'est pas suffisant. Et j'avoue qu'il y a des trous dans la raquette pour faire le tour de France. On voit bien qu'il y a des endroits, surtout dans le champ du handicap, où il y a des manques. Mais
on sera mieux loti en Île-de-France que dans la Creuse, c'est ça ?
C'est sûr, hein, c'est sûr. Hein, et il y a... Bon, je vais pas citer en particulier un territoire, parce que si vous voulez le fait, par exemple, nous, d'aller avec la caravane sur place, hein, de rencontrer les parties prenantes sur place, de, au bout de 3 jours, leur dire ben, « on a eu... » tel cas, où justement on voit qu'il n'y a pas de dispositif et peut-être que ce serait pertinent que sur votre territoire, vous investissiez dans ce domaine-là, on a fait un sacré job.
Vous le faites et vous faites bouger les choses dans certains lieux,
oui.
Avec cette caravane des aidants.
Franchement, je dois dire que sur toutes les étapes, on a les responsables politiques locaux qui viennent et qui prennent du temps. Ils ne viennent pas juste pour la photo. Ils ont compris qu'il y avait un problème. Et ils veulent l'adresser par des solutions. Ils veulent comprendre comment faire. Vous voyez, par exemple, on va beaucoup dans les hôpitaux. On organise des temps d'échange avec les pros de santé. Quand vous avez les pros de santé, quand vous avez des politiques, quand vous avez des associations de patients autour de la table et que du coup, on se dit « Ah bah tiens, on pourrait travailler comme ça ensemble. » Il y a des territoires où les associations n'avaient jamais rencontré les pros de santé et avec lesquels ils travaillent maintenant.
Oui.
Donc si vous voulez, il y a un boulot de fond qu'on fait, qui est un boulot de terrain, moi c'est ce que j'aime. Hein, je suis une femme de terrain, et qui est essentielle aujourd'hui si on veut faire bouger les choses, il faut aller au-devant. Il ne faut pas arriver en donnant des leçons, d'accord ? C'est dire, voilà, on vient humblement, on s'installe là 3 jours, on organise des choses, comme je vous disais, on fait venir les structures locales, on organise des temps d'échange, on fait beaucoup invitée à la télé, radio, sur place. Ce qui fait que les gens, du coup, viennent, expriment leurs difficultés, ou même certains viennent avec les solutions qu'ils ont mises en place. C'est très drôle.
Et c'est utile pour tout le monde.
Mais bien sûr, c'est utile. Donc, il y a ce boulot de fond à faire pour que les gens prennent conscience qu'ils sont aidants, qu'ils ont le droit qu'on les aide, et qu'il faut qu'ils fassent cette démarche d'aller voir ce que, sur leur territoire, la ville, le département met en place. Et qu'encore une fois, les mutuelles, les assurances, les groupes de protection sociale, tout ça, ça bosse aussi pour les aidants.
Mmh. Par exemple, vous parliez de groupes de protection sociale, mais de mutuelles. Je suis sur une mutuelle que je ne citerai pas, mais ils auraient peut-être quelque chose pour moi aidante ou pour la personne bénéficiaire de l'aidance.
Exactement.
Ça pourrait être quoi ?
Ça peut être des conseillères par téléphone qui vont vous donner des solutions.
Donc spécialiste de l'aidance.
Voilà, oui. Pour le bien-être du proche.
Oui.
Ça, c'est vraiment, pour moi, indispensable d'avoir quelqu'un au bout du fil. Parce que nous, on a un partenariat avec Espace Singulier. On utilise leur ligne de téléphone où il y a des professionnels qui vont étudier votre cas et qui vont vraiment vous trouver des solutions. Parce qu'il y a des solutions qui sont inimaginables. Il y a des problèmes qui sont inimaginables et
vous
des solutions qu'il faut
tête,
aller.
Un petit exemple, non, il y a quelque chose qui vous viendrait à
l'esprit. Je peux pas, c'est non, trop horrible.
D'accord.
Non, je veux pas que vos. C'est vraiment affreux. Il y a des situations de vie qui sont. Moi, je peux les encaisser. On a maintenant toute l'équipe aussi parce qu'on a l'habitude. Mais franchement, je n'ai pas du tout envie de raconter ces
d'accord.
histoires horribles. Et du coup, ces professionnels vont prendre le temps, vont écouter, ne vont pas juger, vont rechercher les dispositifs qui s'adaptent parfaitement à la problématique de ces personnes-là. Parce que, encore une fois, on ne trouve pas toujours des solutions, il y a des trous dans la raquette, c'est ce que je vous dis. Mais il y a une volonté de part et d'autre d'apporter des solutions, je trouve. Il va falloir encore attendre quelques années. Les choses, elles ne peuvent pas se faire en 5 minutes.
Qu'est-ce qu'il faudrait là, on est en pleine campagne présidentielle. J'imagine que vous aimeriez adresser un message au peut-être potentiel futur président. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
Merci Marie, mais je crois que je vais venir toutes les semaines. Vous posez les bonnes questions. Alors, vous l'avez dit très justement, je suis membre du collectif Je t'aide. J'ai longtemps présidé, mais j'ai laissé la présidence l'année dernière. Maintenant, je suis responsable du portage politique. C'est un moment fort pour nous. Vous savez, depuis maintenant 6 ans, le collectif porte chaque année un plaidoyer avec donc la problématique et les solutions qu'on propose. Donc nous avons travaillé, le groupe Portage Politique, là ces derniers mois, à une compile de nos demandes qui émanaient des plaidoyers, mais aussi nous avons lancé une grande enquête en ligne et nous avons recueilli l'attente des aidants. Donc, oui. Là, c'est-à-dire la semaine prochaine, les candidats à la présidentielle vont tous recevoir nos souhaits pour aller plus loin et pour qu'ils mettent en place des solutions très concrètes pour accompagner le binôme aidant-aidé. Donc voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire que souvent les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on ne fait rien pour eux, machin. Mais je voudrais les rassurer, c'est un travail de longue haleine, d'engagement quotidien, de prise de risque aussi, hein, parce que c'est jamais facile de défendre une cause et de s'engager. Mais bon, moi, à mon âge, je ne risque plus rien, donc j'y vais. Et
vous pensez que ça vous on peut déranger justement?
Bien sûr, on dérange parce que on demande que les choses bougent et c'est compliqué de faire bouger les choses. Donc puis bon, qu'est-ce que vous voulez quand vous demandez, quand vous avez des revendications fortes, on vous regarde un peu en disant c'est une illuminée quoi. Là, tout le boulot qu'on a fait ces 10 dernières années montre à quel point on a réussi à évangéliser sur le sujet, qu'aujourd'hui, la société est mature pour que se passent des choses concrètes, comme on l'a vu déjà précédemment. Donc là, tous les candidats vont recevoir un petit SMS de ma part avec la liste des courses. Et donc, la suite au prochain épisode, Marie, on se verra peut-être après les élections présidentielles.
Et oui, bah oui, vous nous direz peut-être qu'il y a eu un candidat qui s'est, ou une candidate qui s'investirait plus que d'autres. Et en tout cas, un président ou une présidente qui fera bouger les choses. En tout cas, on l'espère.
Ben, on l'espère. De toute façon, on ne va pas les lâcher. Hein.
Faites-nous
confiance.
Ben non, il ne faut pas.
Non, on ne lâchera pas là. Ah, c'est sûr.
Avant de terminer cette émission, lorsqu'on veut aider un aidant, est-ce qu'il y a des choses à ne pas lui dire, de mauvais conseils à lui donner?
Oh là, vous me prenez de court. De mauvais conseils, oui, ben c'est normal, c'est ton devoir.
Oui.
Non, les bons
conseils. Subis et tais-toi.
C'est ça. Voilà, fais ce que tu as à faire et puis viens pas nous embêter. Donc, moi, les conseils que je donne aux aidants, c'est ne pas rester seul, hein, se faire aider, ok, connaître ses limites. On n'est pas tous faits pour être aidants.
Oui, il y a des gens qui montrent de très beaux exemples, qui ont l'air infatigables, mais tout le monde n'est pas comme ça.
Exactement. Et puis, de toute façon, les infatigables, ils vont se fatiguer un moment ou un autre. Donc, il ne faut pas croire qu'on est des surhommes ou des surfemmes.
Doit l'être.
Ou parce qu'on doit l'être, oui. Par injonction de la société. Hein. Mmh. On sait ce que c'est, nous, les femmes. Donc, pardon. Donc, on peut, bien sûr, aimer infiniment son père, sa mère, ses enfants, son oncle, sa tante, son mari. Mais on a aussi notre propre vie à mener. Et on existe en tant que personne avant d'être aidant.
Oui. Oui, et oui, puisque si on décède avant l'être aidé, ce qui arrive régulièrement pour les couples, oui. On ne sert plus l'être aidé.
D'ailleurs, cette année, beaucoup de gériatres nous ont alertés sur ce fait-là. Il y aurait de plus en plus d'aidants qui décèdent avant le proche dont ils s'occupent, ce qui est vraiment affreux et
ça montre bien qu'il y a un problème. On s'investit
de prise en charge, bien sûr. Oui. Il y a un vrai problème de prise en charge. Il n'y a pas assez d'heures de service à la personne financées dans le cadre des plans d'aide. Il faut absolument muscler les plans d'aide. Il faut augmenter aussi le sujet du répit. Hein. Il faut que le répit se développe pour permettre à l'aidant de s'occuper de lui, parce que 20% des aidants repoussent, voire renoncent à leurs soins quand ils sont aidants, avec les conséquences du décès.
Et vous donnez des exemples dans votre livre.
Oui.
Les aidants, ces proches indispensables du quotidien, aux éditions Nouvelle Cité et Vie des Hommes. Merci Claudie Culac, vous étiez notre invitée aujourd'hui sur Vivre FM et vous faites avancer cette cause des aidants. Vous aidez les aidants, il y a encore beaucoup de choses à faire. On vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous.
Merci à Vivre FM pour votre fidélité.
Merci Claudie.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.